morale laïque et religion, et je viens de m'apercevoir que dans la feuille du plan qui vous a été distribuée, il y a écrit religieuse, mais c'est religion. Et une erreur de frappe, j'ai pas relu le titre. Convergence et opposition. Alors, d'abord, dans une introduction rapide, je vais rappeler quelques banalités avant de peut-être creuser davantage la question. Quand on demandait au chancelier Helmut Schmidt, socialiste, SPD, ce qu'il pensait de l'euthanasie en fin de vie, en public, on lui a posé cette question, il renvoyait le problème aux religions. Il dit, c'est pas l'affaire du gouvernement. Et peu d'Allemands s'en étonnaient, hein, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. C'était considéré comme, on pouvait le contester, mais c'était considéré comme normal. Enfin, il n'y avait rien de scandaleux, quoi. Imaginez en France un Premier ministre qui répond « Ah non, ça c'est l'affaire des religions, je ne m'en occupe pas. » Aux USA, le président, vous le savez, prête serment sur la Bible et termine pratiquement tous les discours, et quel que soit le président, par « Que Dieu garde l'Amérique ». Ou des variantes autour de ça. Et pourtant, ces deux pays se disent clairement, juridiquement, laïcs. Alors, de quelle laïcité s'agit-il ? C'est, vous le savez, celle de la tolérance de toutes les croyances et l'interdiction de toute contrainte religieuse pour croire en ceci ou en cela. Le Dieu dont il est question dans le discours du président est réputé être un Dieu presque anonyme, hein, enfin pouvant convenir à toute religion possible. La laïcité française, elle, est beaucoup plus radicale et elle est mal comprise à l'étranger. On se souvient de l'incident Chirac-Jospin qui, pour une fois, était totalement d'accord. C'était l'époque de la cohabitation. Chirac était président, Jospin, donc Premier ministre. Et ils étaient à Nice pour le sommet des gouvernements de l'Union européenne. Et tous les deux, ensemble, sans se contredire, disant la même chose, tous les deux d'accord, refusent la notion de racine chrétienne de l'Europe au nom de la laïcité. Et pratiquement aucun pays comprend. Parce que c'est pas simplement un désaccord, c'est... En particulier la Grèce et la Pologne, c'est l'incompréhension complète. Quoi. Là, alors, là, ils ne savent même pas quoi dire, parce qu'ils là, ils ne voient pas. Hein. Donc, la laïcité française, elle est connue et elle est particulière. Elle est politiquement construite sur un très vif affrontement historique entre catholicisme et gauche républicaine à la fin du 19e et au début du 20e. Mais mon propos, hein, c'est pas du tout de faire l'histoire de ces années-là, hein. C'est un autre thème, c'est pas le thème d'aujourd'hui. D'où la violente séparation de l'Église et de l'État. Et c'est d'autant plus curieux historiquement, cette violence de la séparation de l'Église et de l'État, que en général, aujourd'hui, tout le monde se félicite, a plutôt tendance à se féliciter, de la séparation de l'Église et de l'État. En tout cas, j'en fais partie, moi. Et je ne suis pas tout seul. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et nouveau effet de manche, peut-être, en tout cas, effet plus ou moins historique, c'est celui du président Macron au Bernardin, le 9 avril de cette année, qui dit qu'il faut réparer les liens entre l'Église et l'État qui se sont détériorés, dit-il. Et là aussi, ça va soulever une polémique, mais pas trop, parce que tout le reste du discours est très nettement et très clairement en faveur, hein, d'une séparation de l'Église et de l'État, et avec des arguments et avec des exemples. Donc on ne peut pas reprocher au discours de Macron d'être anti-laïque, mais quand même, il y a la phrase d'attaque qui fait choc dans la culture française. Alors, cette loi, je le rappelle, 1904-1905, elle a deux principes. Premièrement, la neutralité absolue de l'État et des lieux publics et des fonctionnaires et de son école publique en particulier. Et deuxièmement, et ça peu de Français en ont conscience, dans le reste de la société, c'est le deuxième principe, y compris dans l'entreprise. Je sais qu'il y en a qui font des mémoires sur la laïcité, c'est même très majoritaire. Soyez gentil avec moi parce que je serai président du jury. Je prends note de ceux qui sont là. Non, je plaisante bien sûr. Et donc là, il y a beaucoup à dire, hein, même dans l'entreprise. Donc tolérance réciproque, liberté de conscience et de culte, et y compris en public, pas simplement en privé. L'histoire de sphère privée et sphère publique est contredite formellement par l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU de 1948. Et je vous lis un extrait de cet article, il n'est pas long en entier, mais je lis qu'un extrait. La liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, et écoutez bien à partir de maintenant, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. C'est l'article 18 de la déclaration qu'ont signé à peu près tous les pays, puisque trois pays se sont abstenus. Donc, au moment du vote en 1948, c'est la Russie, l'Afrique du Sud, on comprend pourquoi l'Afrique du Sud et la Chine. L'Afrique du Sud de l'époque. Alors, très récemment, et je termine par ça pour les banalités, Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, sous la présidence de M. Hollande, avait introduit dans son projet de loi l'enseignement d'une morale laïque. Son projet de loi s'appelait « Refondation de l'école de la République ». Et il avait introduit l'enseignement d'une morale laïque, c'était en 2013. Seulement voilà, quel contenu donné, hein, quel contenu original donné à cette morale laïque, en dehors de la tolérance, ça on comprend bien qu'on peut y introduire et développer la tolérance là, la neutralité religieuse de l'État, on peut développer. Mais après, qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qu'on y met qui soit spécifiquement laïque? L'expression a été abandonnée par sa successeuse, je ne sais pas si ça se dit comme ça, Najat Vallaud-Belkacem, qui a supprimé ça de l'avant-projet. Vincent Peillon n'a pas eu le temps de faire voter son projet de loi. Et c'est devenu, avec Madame Vallaud-Belkacem, c'est devenu enseignement moral et civique. Il n'est plus question de morale laïque. C'était en septembre 2015. Alors, ma première idée à ce sujet, c'est comment faire pour rechercher éventuellement une morale laïque. Je crois qu'on peut d'emblée garder la notion de tolérance pour l'instant, comme l'un des principes moraux, et puis chercher peut-être à démêler morale et religion, et à construire des liens pour le bien commun de tout le monde. En gros, il y a un thème de séparation et un thème de lien. La première solution, vous le voyez avec le plan, c'est de dire que, au moins en ce qui concerne le catholicisme, la morale et la religion sont distinctes. Même pour l'ensemble du christianisme. Enfin, c'est pas sûr ça. Disons le catholicisme. La morale et la religion sont distinctes. Donc là, il y a l'idée de séparation. Puis l'idée de lien, et j'insisterai surtout sur cette deuxième partie, il n'y a que deux parties, les religions et le siècle des Lumières. Et ça ne va pas forcément ensemble, tout ça. Les religions et le siècle des Lumières parlent de lois naturelles universelles. Et donc la question qui se posera, c'est y a-t-il une morale naturelle universelle? Parce que ça répondrait à la question du titre général de notre soirée. On va voir que ce n'est pas si simple. Alors donc, première partie, la religion chrétienne induit une conduite morale, c'est évident, mais ne se confond pas avec la morale. D'abord, première idée, la loi morale peut conduire au péché. La morale n'est pas la religion. Un seul commandement moral, vous le savez, c'est très connu, hein, et religieux, c'est « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », repris à maintes reprises dans le Nouveau Testament. Mais la religion n'est pas la morale. Regardez ce qu'écrit saint Paul aux Galates. Alors je reconnais que ce n'est pas souvent cité, hein, que même l'Église n'en parle pas trop. Mais c'est bien dans saint Paul, épître aux Galates, si vous voulez vérifier, chapitre 2, verset 16. Ce n'est pas les œuvres, pardon, ce n'est pas par les œuvres, je vais arriver à le sortir, oui, ce n'est pas par les œuvres que l'homme est sauvé, mais par la foi. Les œuvres, c'est les actions, c'est la morale, c'est comment je me comporte. Et Saint-Jacques ne sera pas d'accord d'ailleurs, hein, il y a une épître de Saint-Jacques qui dit exactement l'inverse. Hein, quasiment mon bourgeau. Dire la loi morale. Même c'est pire que ça, hein. La loi morale peut conduire au péché, et alors là, la citation est encore plus extravagante par rapport aux idées qu'on se fait de la religion, c'est « je n'ai connu le mal que par la loi », on dirait un anarchiste de mai 68, là, « je n'ai connu le mal que par la loi, et de fait, j'aurais ignoré la convoitise si la loi m'avait dit « tu ne convoiteras pas ». C'est Jacques Lacan, là. C'est Georges Bataille. Et c'est pourtant saint Paul, épître aux Romains, chapitre 7, verset 7. Là aussi, cette citation, je le reconnais, n'est pas courante dans nos églises. C'est l'idée que le désir s'instaure de l'interdit. Le désir ne vient pas de rien, il s'instaure de l'interdit. Mais, bien sûr, je dois nuancer, parce que même saint Paul va dire quasiment l'inverse dans d'autres épîtres, et que l'Église dit, c'est la thèse de l'Église, que ce qu'elle appelle l'Ancien Testament a un rôle pédagogique, la loi a donc un rôle pédagogique en attendant la foi qui est l'accomplissement de la loi. L'autre idée, toujours dans cette première partie, c'est que le péché est bel et bien condamné, mais le pécheur, lui, est sauvé. C'est l'idée de rédemption, et de rédemption qui coûte. C'est pas un claquement des doigts, je ne sais pas si Dieu a des doigts, mais c'est pas un sacrement, c'est pas simplement un claquement des doigts d'un esprit divin, mais ça coûte la crucifixion. La rédemption instaure la réhabilitation de la dignité de l'homme. La dignité sacrée, l'idée est importante parce que pour aujourd'hui, qui parle, t'es un bon, qui parle sans cesse de la dignité de la personne humaine, il y a quand même un problème, c'est quel est le fondement de cette dignité. Et on voit bien que en ce qui me concerne, et peut-être les 7 milliards d'êtres humains, on est loin d'être absolument, en insistant sur absolument, absolument digne. On est conscient de nos indignités, en particulier de l'indignité des pires, assassins d'enfants, etc. D'où vient cette dignité? Donc, il y a une distinction radicale entre la dignité morale et la dignité spirituelle. Le pape Benoît XVI, en 2007, dans une encyclique pas assez connue, Spe Salvi, je veux dire espérance dans le salut, espère dans le salut, Benoît XVI, aux pages 70-71, explique que l'idée de purgatoire est bien celle-là. Ça n'existe pas le mot purgatoire dans la Bible. Ni ancien, ni nouveau testament pour parler comme un chrétien. Ni ancien, ni nouveau. Il n'y a pas une seule fois le mot purgatoire, ni même l'idée. Hein, ni le mot, ni l'idée. Mais là, il y a quand même un passage, décidément, On va chercher les passages inconnus, là. J'en ai cité déjà deux, pas très connus de Saint-Paul. Hein. Un troisième qui n'est pas très connu, c'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 15, où Saint-Paul explique que, et ça serait le fondement du purgatoire d'après l'Église. D'après l'Église, hein, parce que c'est l'Église qui parle du purgatoire, c'est pas la Bible. Saint-Paul explique que dans le feu, toujours c'est des images métaphoriques, dans le feu purificateur du jugement dernier, les péchés brûlent au contact du Christ, mais la personne, elle, est sauvée, et elle est sauvée par le Christ. C'est justement ça la rédemption. Et donc l'encyclique Spes Salvi reprend ce passage de Saint Paul et affirme clairement, Benoît XVI affirme alors là, clairement, hein, c'est plus des métaphores, que la personne est sauvée et que le péché est détruit, mais que la personne est sauvée. Il y a donc une nette différence entre la morale, dont certains pourraient croire qu'elle est ce qui conduit ou non au paradis ou à l'enfer. Non, pas du tout. C'est pas de ça dont il s'agit. Il y a une sacralité de la personne qui n'est pas relative à son comportement moral. Voilà la fin de la première partie, il n'y a que deux parties. La deuxième, c'est de voir un peu si le siècle des Lumières et l'ensemble des religions ont raison de parler de loi naturelle universelle. D'abord, nuançons. Le siècle des Lumières, c'est beaucoup de monde. Hein, et tout le monde dit pas la même chose. Et les religions, c'est beaucoup de monde. Et dans chaque religion, c'est aussi beaucoup de monde. Et tout le monde dit pas la même chose. Pour tout vous dire, pour être franc avec vous, je ne suis pas un grand fanatique du concept de loi naturelle. Mais c'est vrai que quand même, c'est un concept intéressant concernant d'autres sujets. Parce que si vraiment il y a une loi naturelle, et pourquoi pas, hein, si vraiment il y a une loi naturelle, c'est la grande solution glorieuse et triomphante d'un esprit laïque que de se rattacher à cette morale naturelle universelle. On appelle ça les universaux, parce qu'il y a des universaux. Il faut dire qu'en même temps, la laïcité qui souhaite cette morale universelle, la laïcité par son principe de tolérance, qui est évidemment absolument nécessaire, sinon c'est plus la laïcité d'ailleurs, par son esprit donc de tolérance, favorise à son corps défendant le relativisme. Si je suis tolérant, c'est que j'admets que d'autres pourraient peut-être avoir raison. Finalement, même à la limite, certains laïcs le pensent, tout le monde a raison. Le relativisme, exploité par d'autres, pas par les laïcs, ça risque d'entraîner des affrontements, des différences culturelles, finalement inconciliables. Donc, il y a le même, mais son contraire là-dedans. Du point de vue laïque par rapport à la loi naturelle et à la tolérance vue comme relativisme. Alors peut-être peut-on rechercher un fondement premier d'une morale et d'un droit universel. Fondement premier, c'est-à-dire quelle est la cause première de tout ça. On va voir que c'est pas facile, même ce concept est très difficile. Je voudrais partir de quelque chose de plus concret. Il y a eu un événement important en 1993 à Chicago. C'est le Parlement mondial des religions du monde. Il y a eu un vrai dialogue interreligieux. Il y a beaucoup de dialogues interreligieux, hein, donc je ne vais pas les citer tous. Mais là, on en a un de mondial, de connu, de médiatique. Un vrai dialogue interreligieux sur les valeurs éthiques sécularisées de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le sujet est donc très précis. Déclaration des droits de l'homme de l'ONU de 1948. Fait presque extraordinaire, il y a un consensus de ce Parlement mondial des religions sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en 2001, donc 8 ans plus tard, les personnes qui ont participé à ce Parlement mondial adressent à l'Assemblée générale de l'ONU des remarques qui s'appellent des ponts vers l'avenir, où il y a un principe central: chaque personne doit être traitée humainement, et rappel de la règle d'or de la réciprocité, c'est-à-dire, c'est ce qu'on dit tous les jours, ça, hein, ne pas faire à autrui ce que je ne veux pas qu'il me fasse. C'est ça la règle d'or de la réciprocité. Et que ça peut être ça, une morale universelle, une loi naturelle. Le 4 axes, dit toujours ce texte, des ponts vers l'avenir: la culture de la non-violence et du respect de chaque vie. Alors moi, je ne suis pas si sûr que ça, que ce soit universel. J'aimerais bien. Culture de la solidarité et ordre économique juste. Ouais. Culture de la tolérance. Culture de l'égalité, c'est le quatrième, et du partenariat homme-femme. Égalité et partenariat homme-femme. Et je ne suis pas très sûr non plus de l'universalité de ce concept. Disons aussitôt d'ailleurs que les participants, acteurs de ce Parlement des religions du monde, ont été tous des personnes connues et reconnues par leurs religions respectives, mais non mandatées par personne. Mais c'est déjà pas mal, quoi. Mais personne n'avait un mandat. Les rabbins présents ne parlaient pas au nom de tous les juifs, les catholiques présents ne parlaient pas au nom du Vatican, et les protestants présents ne parlaient pas au nom de leurs églises. Et il y avait les bouddhistes, ils ne parlaient pas plus. Donc ça relativise quand même un petit peu ce qui s'est dit. Alors tout ça, est-ce que c'est une morale humaine, une morale naturelle? C'est jamais clairement dit dans leur texte. Ils ne parlent jamais clairement d'une morale naturelle. Mais on peut penser que c'est une morale naturelle d'après eux, parce que c'est quand même un dialogue des religions. Et que les religions majoritairement, même si moi je conteste un peu, hein, les religions majoritairement ont tendance à penser que le droit divin et le droit naturel, c'est un peu la même chose. C'est Dieu qui a mis dans chaque conscience les mêmes lois morales et juridiques. Qui aurait mis. Alors, maintenant, deuxième question, est-ce une morale universelle? Je vous posais la question, une morale naturelle. Est-ce une morale ou un droit universel? Alors là, oui, selon les partisans de ce texte. Oui, c'est une morale universelle. Bien que quand même, le texte parle de culture, cité 4 fois, puisqu'il y a 4 axes, les 4 axes commencent par culture, et que la notion de culture, c'est l'acquis. Et l'acquis s'oppose à l'inné. De ce fait, il n'est pas très certain qu'on puisse dire qu'il s'agisse d'une morale universelle, parce qu'il n'y a que l'inné qui est universel. Le culturel n'est jamais universel. Je voudrais citer, simplement pour mémoire, parce que ce serait trop long, Raymond Panikkar qui a vécu entre... Panikkar s'est écrit en 2 cas. Sinon, pour le reste, c'est très simple. C'est le plus simple qu'on puisse pour écrire. Mais il y a 2 cas. Il est né en 1918, mort en 2010. Il est de mère catalane et de père indien. Il a été ordonné prêtre. Et il a été professeur en Inde, professeur d'université, et à Harvard. Réputé, à tort à raison, être la plus célèbre université américaine. C'est un prêtre qui n'a pas toujours été bien vu par sa hiérarchie, hein, mais qui a essayé de tendre, avec des textes très intéressants, vers un universalisme interreligieux. Moi, j'ai lu un seul livre de lui, un livre qu'il a écrit en 1972, mais il en a écrit une cinquantaine, hein. Le Christ et l'hindouisme, et même si je suis loin de tout approuver, c'est extrêmement pertinent. Bon, alors, y a-t-il des universaux? Oui, pourquoi pas, parce qu'ils peuvent être déterminés par le bon sens du vivre ensemble. Il y a ce qui marche pour le vivre ensemble et ce qui ne marche pas pour le vivre ensemble. Donc c'est finalement, ça pourrait être empirique, purement expérimental, hein, cette universalité. Une sorte de traité de paix, comme dirait Rousseau ou Hobbes, hein, un contrat social. Mais c'est très insuffisant cette idée. Parce que la question qui se pose, c'est pourquoi vivre ensemble? Et la réponse n'est pas évidente. Pourquoi ne pas chercher à dominer l'autre? Et on sait que dans l'histoire privée ou dans l'histoire mondiale, il y a des tas d'exemples plus que regrettables de personnes qui ont cherché à dominer l'autre, pas le vivre ensemble. Pour Calliclès, dans le Protagoras de Platon, qui est un contradicteur de Socrate, Calliclès dit clairement que le droit naturel, c'est la loi du plus fort. C'est ça le droit naturel. Alors, y a-t-il un repère absolu d'une vérité? Y a-t-il un fondement premier? Je fais juste un petit écart là, mais très bref. C'est le rappel du théorème de Gödel. G-O, tréma sur le O, umlaut, disent les Allemands. G-O-D-E-L, mais un tréma sur le O. C'est un Autrichien. En 1931, il énonce son théorème, qui est maintenant pris en compte par aussi bien les scientifiques que les philosophes et les historiens. Ce théorème de Gödel dit qu'un système logique ne peut pas se justifier lui-même. Il est impossible qu'un système logique soit circulaire. C'est-à-dire que, il ait ses raisons en lui-même, qu'il ait une sorte d'auto-justification logique de sa logique. Tout système logique a besoin de commencer par des propositions non démontrées. Et c'est à partir de ces propositions non démontrées qu'on démontre les propositions qui suivent dans cette logique. C'est ce que les mathématiciens appellent axiomatiser une mathématique. Il y a l'axiomatisation, par exemple, de la géométrie d'Euclide, l'axiomatisation de la géométrie arithmétique, etc. Gödel s'applique à tout système logique, pas simplement aux mathématiques et aux sciences. Et j'en reviens donc à la morale, là, et au droit. Il ne peut pas y avoir de logique qui s'auto-justifie. Il faut trouver une raison extérieure au système logique et indémontrable. Finalement, c'est cette notion de cause première qui devient impossible à résoudre de façon satisfaisante. En science, on le sait très bien, le Big Bang serait à l'origine de l'univers, mais quelle est la cause du Big Bang? Et puis si on trouve la cause du Big Bang, quelle est la cause du Big Bang? Et ça, à l'infini. Ça ne marche pas mieux pour Dieu, hein? Parce que quelle est la cause de Dieu? Dieu lui-même? Ça ne se comprend pas de façon logique. Donc, on a bien toujours cette idée de trouver une cause extérieure indémontrable, et qui est la raison de la morale et du droit. Il n'y en a que deux, on ne peut pas en trouver d'autres. Il y en a que deux, c'est Dieu ou le droit naturel, le droit divin ou le droit naturel. En effet, on va dire, il faut se conduire de telle façon parce que Dieu l'a dit. Et là, on ne se pose plus la question de savoir pourquoi Dieu l'a dit, là. On s'arrête, là. On marque l'arrêt, là. C'est terminé, là. Hein, il l'a dit, il l'a dit. Le droit naturel, c'est pareil, hein. Le droit naturel n'a aucune raison d'être le droit naturel, simplement il est déposé, paraît-il, au cœur de chaque conscience. Rousseau y croit, hein. Conscience, conscience, céleste voix, hein, dans la profession de foi du vicaire savoyard. Alors, par exemple, et l'exemple est lourd, hein, la Déclaration des droits de l'homme, mais cette fois-ci de 1789, dans son préambule, eh bien, elle se paie la richesse maximum du fondement en disant que les droits qui vont être énoncés sont à la fois naturels et divins. Tout ça, c'est réglé. Le préambule, qui n'est pas très connu, pas assez connu du grand public, hein, le préambule parle de droits naturels, imprescriptibles et sacrés, mais il n'y a pas que le mot sacré qui évoque Dieu. Dieu est évoqué directement en fin du préambule par l'expression « sous les auspices de l'être suprême ». Finalement, elle n'est pas d'une très grande laïcité. Hein. Il y a les cités pourtant en préambule de nos constitutions. Mais le préambule de nos constitutions, on ne sait pas. Bah, personne n'a pu me répondre, mais il y a peut-être des juristes qui me répondront, et aucun juriste que j'ai interrogé n'a pu me répondre. Je ne sais pas si dans le préambule des constitutions de nos républiques françaises, le préambule de la déclaration s'y trouve. Hein. La déclaration est bien le préambule, mais est-ce que le préambule est mis? Alors ça, ils ne savent pas. Ils ne savent pas si le préambule est mis. S'il faut le mettre, s'il ne faut pas le mettre, on ne sait pas. Malgré tout, il y a bien cette idée, et c'est du lourd, hein, c'est la déclaration des droits de l'homme. Celle de 1948, l'ONU ne parle plus du tout ni de droit naturel, ni de droit divin. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup de fondements, quoi. C'est des déclarations formelles, hein, voilà. On les prend ou on ne les prend pas. Dans une deuxième idée, et j'approche de la fin, l'universalité de la loi naturelle, je vais dire qu'elle est contestable, mais qu'elle est soutenable. D'abord, il y a une objection, c'est celle de l'islam, modérée ou pas d'ailleurs, hein, de l'islam dans son ensemble. Et pourquoi pas, ça serait justifié, il y a même des chrétiens qui sont d'accord avec ça. Hein. Est-ce qu'il faut choisir les droits de l'homme ou les droits de Dieu? Qui l'emporte? Les droits de Dieu ou les droits de l'homme? Et l'islam répond clairement, hein, que c'est les droits de Dieu. Et certains catholiques dits intégristes sont d'accord avec ça. Hein, c'est pas la même religion. Mais ils sont d'accord sur le fait que les droits de Dieu l'emportent sur les droits de l'homme. Faut-il alors intégrer, au nom de la tolérance, des droits naturels, des droits universels, et par exemple, pour essayer de résoudre ce problème, la contradiction éventuelle des droits de Dieu et des droits de l'homme, on peut introduire l'objection de conscience, qu'introduit effectivement, très souvent, ceux qui ont essayer d'écrire des lois universelles et naturelles, l'objection de conscience, la clause de conscience, qui permet de résoudre un peu le problème. Hein. On sait par exemple que un médecin français a le droit de ne pas pratiquer l'avortement. C'est pas une faute, c'est l'objection de conscience. Hein. Ou même, tel à l'époque du service militaire, on pouvait ne pas aller faire son service militaire, on appelait ça les objecteurs de conscience. On pourrait citer d'autres cas. Et on va même plus loin, et là, du coup, on ébranle beaucoup la notion de loi naturelle, on constate des erreurs graves, d'appréciation passée de la loi naturelle. Je vais en rester uniquement aux catholiques dans cette autocritique. L'Église le reconnaît d'ailleurs, hein. L'Église le reconnaît aujourd'hui, c'est à la mode d'ailleurs de reconnaître. Hein. L'Église le reconnaît, en 1960, c'est pas mieux, hein. Le cardinal Siri, archevêque de Gênes, écrit et dit dans sa cathédrale, le port du pantalon par les femmes est contre la loi naturelle. Mais il faut le faire quand même. Hein. Le 1960. Ouais. Alors, il est contredit depuis, hein, officiellement. Il est officiellement contredit depuis, mais c'est peut-être un peu tard. Quoi, hein, et puis, il y a pire, c'est Saint Paul encore, Saint Paul, première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 4, où il écrit que la nature enseigne que c'est une honte, il ne dit pas une faute, hein, une honte pour un homme de porter les cheveux longs. Voilà. C'est contre la loi naturelle. Il ne dit pas la loi naturelle, il dit la nature. Hein, la nature enseigne que. Plus tard, pour saint Thomas d'Aquin, 13e siècle, le principal théologien de l'Église catholique, il y a une loi naturelle, mais il est conscient de tout ça. Et il dit qu'il faut discerner, et ça c'est intéressant, les principes généraux de la loi naturelle et de la loi universelle, et laisser ouverte l'indétermination de leur application. Il ne faut pas essayer de faire croire que la loi naturelle entre dans les détails, loin de là. On peut s'en tenir à des principes simplement généraux. Et le même saint Thomas d'Aquin s'insurge contre le fait qu'on puisse réduire le droit naturel au droit animal. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce que Caliclès disait, la loi naturelle, c'est la loi du plus fort. Parce que l'homme, en plus de l'animal, a la raison et il a la spiritualité, entendons par spiritualité l'expérience intérieure et exaltante d'un mystère qui dépasse l'homme. Ça peut être une spiritualité laïque, du coup, hein, énoncée comme ça. Ben, la raison et la spiritualité appartiennent à l'homme et elles sont aussi dans la nature humaine. Et ça lui confère même sa dignité particulière. Donc saint Thomas sauve, en quelque sorte, la notion de loi naturelle et de droit universel par ces deux arguments. Hein, le premier, être très général, pas entrer dans les détails de l'application. Et le deuxième, dire qu'on n'est pas de simples animaux, il y a la raison, il y a la spiritualité, et donc dire qu'il y a une loi naturelle, c'est pas dire que c'est la loi du plus fort. Et je terminerai ça par notre grande réunion internationale, la Commission théologique internationale, mais à l'intérieur de l'Église catholique, a produit en 2009, c'est pas très vieux, sous le pontificat de Benoît XVI, un texte très important intitulé « À la recherche d'une éthique universelle, nouveau regard sur la loi naturelle ». Le titre à lui tout seul est une philosophie complète. Hein. « À la recherche d'une éthique universelle », c'est-à-dire qu'on ne l'a pas trouvé, mais que c'est bien de la chercher, et « Nouveau regard sur la loi naturelle », c'est-à-dire que la loi naturelle, ce n'est pas évident du tout, et ça mérite d'être revisité. Ce texte énonce entre autres les problématiques que je viens de donner, là, que je viens d'évoquer, et en particulier, il contient les exemples que je vous ai donnés là, sur le cardinal Cyril, avec le pantalon pour les femmes. Donc il est autocritique, hein, le texte est autocritique, à juste titre d'ailleurs. Et les religions et la laïcité peuvent peut-être s'y retrouver, parce qu'il y a vraiment une recherche sincère, non pas d'une morale chrétienne admise par tous, mais bien d'une morale naturelle, d'un droit universel. Et je terminerai par une chose facile. Facile d'en énoncer, facile à dire, mais très difficile, justement, on va voir, à faire. Peut-on aujourd'hui, vous l'avez sur le plan, énoncer concrètement des principes potentiellement universels d'une loi naturelle, mais ouvert et non pas dogmatique, pouvant rendre efficiente une morale laïque, commune à toute l'humanité, sans pour autant renoncer aux cultures particulières. Ça avait beaucoup de conditions, ça. Hein. Regardons, prenons des exemples. Alors, ce n'est pas le plus marquant, mais c'est le plus attesté par les sciences humaines, dans l'anthropologie, la prohibition de l'inceste est effectivement universelle selon Lévi-Strauss et selon Lacan. Et bien d'autres, hein. Je cite les deux qui ont dit la même chose avec des argumentations différentes. Mais disent-ils, et il y a beaucoup de mais, hein, c'est universel, mais c'est pas naturel. Parce que le naturel, c'est ce qui serait inné. L'embêtant, c'est que là, c'est pas inné, puisque c'est très variable, cette prohibition d'inceste, d'une culture à l'autre. Très variable dans les sanctions qui vont de la simple moquerie du village à la peine de mort. C'est quand même un sacré éventail, hein, de sanctions contre la prohibition, contre ceux qui commettent l'inceste. Et l'autre, c'est la définition même de l'inceste, qui n'est pas la même d'une culture à l'autre. Les notions de parenté sont très différentes en Inde, par exemple, qu'en Europe. Donc c'est pas du tout naturel. C'est pas du tout naturel, mais ce serait, disent-ils, universel. Le plus marquant, c'est « tu ne tueras pas ». « Tu ne tueras pas » pourrait être universel et naturel. Mais l'embêtant, c'est qu'il y a des exceptions. Et ce, dans les religions, comme dans l'ensemble des cultures. Les exceptions, c'est la légitime défense. Les exceptions, c'est la guerre défensive. Et l'exception, ça peut être aussi l'euthanasie. Pour ceux qui sont favorables à l'euthanasie, il y aurait là, tu ne tueras pas, ne serait pas, ce serait une exception.
Et la peine de mort.
Et la peine de mort, je ne sais pas. Effectivement, la peine de mort. Toujours d'actualité, le respect des parents. Honorer son père et sa mère. Mais là, probablement des mots plus actuels, le respect des parents, le respect de la famille. Alors là, c'est nettement naturel, puisque c'est la filiation. Encore qu'on pourrait parler des parents adoptifs. Hein. Est-ce universel? Oui, peut-être. Mais on voit bien, dès l'Antiquité, dans la pièce de Sophocle qui s'appelle Antigone, et c'est d'ailleurs le thème de cette pièce de théâtre, Créon représente le droit positif. Hein, la Grèce est en train de passer de la tribu à la cité moderne, rationnelle. Et Antigone représente la Thémis, la famille. Et Antigone réplique à Créon, il y a une loi non écrite. Parce que Créon lui dit, on a fait des lois, tu étais là, hein, tu es princesse, on t'en a parlé, hein, on a fait des lois, les traîtres, on les enterre pas. Hein. Oui, mais c'est mes deux frères, effectivement, ils sont traîtres, effectivement, je suis contre ce qu'ils ont fait, mais je vais les enterrer. Créon lui dit, non, c'est contraire à la loi, elle réplique, il y a des lois non écrites. Alors, est-ce que la loi naturelle est une loi non écrite? On est bien dans le respect de la famille. Il y a aussi de ne pas mentir, de ne pas voler. Mais ça, c'est vrai qu'à l'intérieur d'une communauté, la non-violence aussi. L'État a le monopole de la violence, parce qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Mais on voit bien que dès qu'il s'agit de l'extérieur de ma communauté, là, j'ai le droit de mentir, hein, c'est le rôle de la diplomatie. Et même éventuellement de voler au nom de la raison d'État.
Attention, on tombe vers là.
Oui, je termine. La fraternité et solidarité, oui, mais les djihadistes se disent frères, je vais donc très vite, hein, là. La voix de la conscience, oui, mais les nazis avaient une voix de la conscience un peu spéciale. Hein. Les jeunesses hitlériennes étaient sûres d'avoir moralement raison. Alors la voix de la conscience. La dignité de la personne humaine, oui, mais quelle dignité? Celle relative aux qualités, défauts et état de santé, hein, ou bien la dignité absolue, selon laquelle un vieillard grabataire a la même dignité qu'un jeune athlète. De quelle dignité s'agit-il? Dépassement de l'immédiateté et projection vers la durée. On vit toujours un peu trop dans nos civilisations, dans l'instant. Les religions ont peut-être ce rôle de rappeler une projection dans l'avenir, et dans l'avenir lointain. Oui, mais ce n'est pas forcément universellement partagé. La spiritualité avec ou sans Dieu, on en a parlé tout à l'heure, c'est quand même compliqué la spiritualité parce qu'elle donne dans le mystère. Et il s'agit peut-être pour la culture de donner du sens, mais de donner du sens sans pouvoir nommer le sens. Là, je rejoins par anticipation Marc Alain. Le donner du sens, mais quel sens? On ne peut pas le cerner tellement, ce sens. On est dans le mystère. La sauvegarde de la planète, c'est très ancien. Hein, dans la Bible, dès les premières pages, l'homme est chargé d'entretenir le jardin d'Éden. Saint Paul, plus tard, dira que la création, pas simplement l'homme, la création tout entière est appelée à être sauvée. La création tout entière. Minéraux, végétaux, animaux. Aujourd'hui, ça a davantage d'impact. Les religions jouent un grand rôle. Mais là aussi, je ne suis pas très sûr que ce soit universel quand on voit Donald Trump. En revanche, il y a des trucs qui ne rentrent pas du tout là-dedans. Liberté d'opinion, ça ne se voit pas comment ça pourrait être une loi naturelle et universelle, là, pour l'instant. Égalité homme-femme, même la tolérance, puisqu'on parle de la laïcité. Peut-être être une loi naturelle universelle. Je saute, j'arrive à la conclusion, c'est une ligne, la conclusion. La nouvelle laïcité est une interrogation ininterrompue sur le sens, dit Edgar Morin, qui est une autorité reconnue. C'est dans la revue Le Débat, numéro 58, qui dit ça. Là, je crois qu'effectivement, et je conclue donc joyeusement, positivement, je crois qu'on peut s'entendre là-dessus. Parce que, enfin peut-être pas les intégristes de telle ou telle religion, mais on peut s'entendre là-dessus, parce que dire que la laïcité, c'est une interrogation ininterrompue sur le sens, ça veut dire qu'il faut rester ouvert. On ne peut jamais se figer sur un dogme, sur une vérité absolue. Et on voit bien les lois naturelles, dites naturelles, qui changent finalement d'un siècle à l'autre. Elles sont dites naturelles, mais elles changent beaucoup. Rester ouvert, mais orienté quand même, c'est pas du relativisme. On reste orienté dans une direction. On sait pas trop à quoi elle aboutit. Et que ce soit un chrétien, un juif, un musulman, il n'a pas épuisé, aucun n'a épuisé la connaissance de l'absolu. Mais alors, loin de là, quoi. Donc cette idée d'une interrogation ininterrompue sur le sens pour engendrer la vraie tolérance et le débat. On ne s'ignore pas, c'est le débat. Interrogation ininterrompue sur le sens, je crois que ça peut effectivement éviter et l'intégrisme et le relativisme et pouvoir contenter tout le monde en approfondissant un peu. Merci de votre attention. J'ai brûlé un peu le temps.
Merci Bernard.